RFI, 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Soyez les bienvenus pour le dernier journal africain de votre matinée avec à la une ce matin les réactions au Tchad alors que le président Mahamat Idriss Déby est engagé sur le terrain pour diriger l'opération militaire Askanit. Vous entendrez l'opposant Succès Masra. Une campagne de vulgarisation lancée par la junte en Guinée. Une campagne pour présenter l'avant-projet de constitution à la population. Mais la classe politique s'interroge quelque peu sur le calendrier. La scène politique ivoirienne ensuite avec le congrès du FPI ce week-end pour choisir un candidat en vue de la présidentielle de l'an prochain. Une réunion à Lomé pour réfléchir aux moyens de baisser le prix des billets d'avion dans l'espace CEDEAO. Et puis la mort d'une légende du foot algérien, une figure de l'indépendance, Rachid Mekloufi, nous a quittés à l'âge de 88 ans. Il s'est exprimé avant-hier soir depuis le front dans la région du lac Tchad où il dirige personnellement l'opération militaire Askanit contre Boko Haram. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, qui évoquait par ailleurs récemment un possible retrait de la force multinationale mixte. Cette force censée lutter contre le terrorisme et qui regroupe également le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin. Mais le chef de l'État tchadien dénonce un manque de solidarité. Alors, qu'en pensent ses compatriotes de cet éventuel retrait déjà, et puis de voir leur président engagé en première ligne? Eh bien, écoutez ce qu'en dit Succès Masra, qui a été Premier ministre de la Transition et qui est aujourd'hui redevenu opposant. Il donnait hier soir une conférence à Sciences Po Paris.
On n'a pas besoin d'être sur le terrain en permanence pour diriger une opération de guerre. Donc je crois que ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais une guerre se gagne aussi sur le plan psychologique. Et donc, il n'est pas exclu que de manière ponctuelle, n'importe quel général soit amené à être physiquement avec ses troupes pour les galvaniser, mais ça ne peut que se limiter à cette dimension, je dirais, symbolique.
Le président Déby a laissé entendre que le Tchad pourrait quitter la force multilatérale mixte. Qu'en pensez-vous ?
Moi, ma vision des choses, c'est que nous, les Tchadiens, devons être capables de compter sur nous-mêmes pour assurer un minimum de sécurité, mais les racines du mal ne sont pas nationales uniquement, sont aussi exogènes. Et parce qu'elles sont exogènes, la mutualisation des moyens, la capacité à travailler ensemble est indispensable. Qu'il y ait des ajustements opérationnels ponctuels, c'est dans l'ordre normal de toute œuvre humaine. Mais la solution à ce problème global doit d'abord être global et doit pouvoir mutualiser. On ne peut pas se passer d'un pays comme le Nigeria, d'où est parti quand même Boko Haram. On ne peut pas se passer de l'obligation de la mutualisation des forces à l'échelle sous-régionale.
La réaction de l'opposant tchadien Succès Masra, controversée mais prolongée pour la 85e fois en RDC. L'état d'urgence dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu a en effet été prorogé par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. Un état d'urgence en vigueur depuis mai 2021. La RDC où les états généraux de la justice se sont poursuivis hier. Troisième jour de discussion à Kinshasa. Pourquoi la justice est-elle qualifiée de malade? C'est le thème qui anime ces assises. Une tournée en Guinée pour vulgariser, pour présenter l'avant-projet de constitution à la population. C'est le Conseil national de transition qui a lancé cette tournée jeudi pour expliquer donc les grandes lignes de la future constitution, dont une première mouture a d'ailleurs été présentée cet été. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, s'était d'ailleurs engagé à organiser un référendum avant la fin de l'année. Mais aucune date pour l'heure n'a été fixée. Certains partis politiques voient donc ici une nouvelle manœuvre de la junte pour conserver le pouvoir, Sidi Yansané.
Lancé en grande pompe sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry, en présence de membres du gouvernement et du cabinet de la présidence, la campagne de vulgarisation est censée rassembler les populations guinéennes afin qu'elles participent également à la conception de leur future loi fondamentale. Toujours bloquée au stade de l'avant-projet, cette nouvelle constitution a pourtant déjà été présentée, défendu et expliqué par Dansa Kuruma lui-même, président du Conseil national de transition, qui a tenu plusieurs ateliers en Guinée et à l'étranger. Pour Souleymane Souza Konaté, chargé de communication de la coalition politique d'opposition ANAD, le CNT fait du surplace. Il ajoute que toutes les activités menant au retour à l'ordre constitutionnel sont reléguées au calendrier grec et que cet avant-projet ne sert qu'à autoriser le général Mamadi Doumbouya et la junte du CNRD à confisquer le pouvoir. En septembre dernier, le président du CNT affirmait sur France 24 que le nouveau texte remplissait toutes les conditions pour être soumis à un référendum transparent et inclusif, mais à moins de 2 mois du 31 décembre, il reste encore le recensement de la population à effectuer et le fichier électoral à confectionner.
Sidi Yansané, la scène politique de Côte d'Ivoire à présent, avec le 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien ce week-end dans la capitale Yamoussoukro. Principal objectif, désigner un candidat pour la présidentielle de 2025 alors que le FPI a été secoué ces dernières semaines par des divisions. On fait le point avec Binta Diagne.
L'actuel président du parti, Pascal Affine-Guessant, fait figure de favori. Jusqu'à la dernière minute, le doute subsiste toutefois sur le maintien ou non de la candidature de son challenger, l'avocat Pierre Dagbo-Godé, car suspendu du parti pour ses déclarations critiques. Ce dernier incarne cette frange de militants qualifiés de frondeurs qui, ces dernières semaines, ont contesté l'autorité du parti. Deux faits sont à l'origine de ce courant dissident. Le soutien à l'appel au rassemblement de l'opposition prononcé par Laurent Gbagbo le 14 juillet 2024 et la rupture du partenariat avec le RHDP. Plusieurs cadres ont été suspendus et ou démis de leurs fonctions. Ces remous n'ont aucun effet sur le fonctionnement du parti, assure Barthélémy Régnier-Pas, le nouveau secrétaire général du FPI. Hier, face aux militants, Pascal Affine-Guessant a encouragé le président Alassane Ouattara à renoncer à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. « Il faut qu'il renonce, dit-il, pour ne pas plonger notre pays dans une crise. Il ne faut pas, poursuit-il, qu'il écoute les laudateurs qui gravitent autour de lui et qui appellent à un quatrième mandat. » Fin de citation. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Comment réduire le prix des billets d'avion dans l'espace de la CEDEAO ? C'est la question à laquelle les experts et les ministres des Transports de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest ont tenté de répondre toute la semaine dans la capitale togolaise, Lomé. Un rendez-vous pour étudier les moyens d'harmoniser les taxes, notamment, et à terme donc, de faciliter la circulation. Correspondance de Peter Sassou-Dogbé.
Pour les participants, les objectifs étaient multiples. Harmoniser les taxes, revoir les redevances et réduire au mieux les coûts de transport aérien dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Des prix considérés comme les plus élevés du continent. Les travaux ont noté que le coût du carburant des avions et les lourdes redevances pesaient sur les prix des billets, ce qui ne devrait pas être le cas, selon le commissaire aux infrastructures, à l'énergie et à la digitalisation de la CEDEAO, Sidi Koduka.
En réalité, par rapport à l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI, des taxes même ne doivent même pas exister. Seules des redevances peuvent exister, même elles, à une certaine proportion.
Il faut donc agir vite et de manière unanime, dit le ministre togolais des Travaux publics et des Infrastructures, Sani Yaya. Il assure que des mesures innovantes ont été décidées.
C'est raisonnablement que le comité des experts a recommandé qu'on annule le prélèvement des taxes sur le coût des billets d'avion. Parallèlement, nous avons adopté d'autres mesures en termes d'indemnisation des voyageurs s'il y a des retards importants.
Toutes ces décisions entreront en vigueur dès le 1er janvier 2026. Peter Sassou-Dogbé, Lomé, RFI.
Une étoile du football qui s'est éteinte, une légende du foot algérien ayant fait les belles heures de l'AS Saint-Étienne en France, Rachid Mekloufi est mort des suites d'une longue maladie. Il avait 88 ans. Attaquant à l'époque, il avait brillé sur les terrains à partir des années 50, lui qui fut également un symbole de la lutte pour l'indépendance algérienne, raison pour laquelle il quitta l'Hexagone alors qu'il n'avait que 22 ans et que sa carrière était en pleine ascension, Babacar Diarra.
Entre la gloire d'une participation à la Coupe du Monde 1958 en Suède et l'appel d'une équipe formée clandestinement pour défendre l'indépendance algérienne, Rachid Mekloufi n'avait pas hésité. Le ressentiment du chouchou du public stéphanois et étoile montante de l'équipe de France avait alors ressurgi en même temps que la guerre d'Algérie.
Et j'étais rebelle avant de venir ici en France parce que vous savez que je suis de Sétif et qu'en 1945, il y a eu énormément de dégâts à Sétif et j'ai vu ça.
Pour le natif de Sétif et ses camarades algériens partis en catimini, débutait alors une aventure de plus de 80 matchs non officiels avec un 11 dédié à la promotion de l'indépendance de leur pays sous les couleurs du Front de Libération Nationale.
Avant de porter la parole à travers le monde, on a secoué l'Occident parce que même dans d'autres pays européens, ils ne savaient pas qu'il y avait une guerre, etc. Donc c'était le but premier de cette action.
Des pays de l'Est sympathisant de la cause indépendantiste à la Chine ou au Vietnam, la caravane des footballeurs algériens a fait son œuvre. Celle de footballeurs de Merloufi s'est poursuivie après l'indépendance en 1962 à la dissolution de l'équipe du FLN, avec un retour dans son fief stéphanois où il aura cumulé en deux passages 4 titres de champion de France.
Babacar Diarra sur la légende Rachid Merloufi qui s'éteint donc à Sétif comme à Saint-Étienne. Il est 9h, bientôt 40 minutes. Restez avec nous, vos programmes continuent sur la Radio du Monde.